André Ruiz pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre deuxième saison sur Molière avec la deuxième émission sur le grand homme Nouvelle Formule avec l'interview de Molière venu de l'au-delà sous la voix de Philippe Merlin. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et les extraits de son œuvre interprétés par nos comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Michel Lagouin. Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Alors nous reprenons l'interview. Jean-Baptiste, racontez-nous votre première aventure de l'illustre théâtre.
Oui, j'ai commencé. Vous me direz pourquoi ce nom, hein. C'était un clin d'œil aux hommes illustres des romans et récits édifiants, et l'adjectif témoignait de l'ambition artistique de notre jeune troupe. Nous embauchions ponctuellement un orchestre de 4 musiciens et d'un danseur, permettant de jouer des intermédiaires musicaux. Nous avions acheté et programmé de nombreuses œuvres, un répertoire composé exclusivement de pièces sérieuses émanant d'auteurs prestigieux et bannissant les facilités de la comédie. Le genre à la mode était le tragique. Une telle ambition a été récompensée par la protection de Gaston d'Orléans, dit Monsieur, le frère du roi Louis XIII. Il était le lieutenant général du royaume, en attendant la majorité du jeune dauphin, Louis XIV. Il nous autorisait à nous déclarer troupe de Monsieur, entretenue par son Altesse royale. A priori, notre aventure commençait sous de bons auspices.
Et comment vous est venu le nom de Molière ?
Notre rêve était de devenir, pour mes compagnons et moi, les nouveaux grands comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. C'est ainsi qu'on se nommait, quoi. L'Hôtel de Bourgogne était, avec le Théâtre du Marais, les deux seules salles de spectacle rive droite. Il était de mode à cette époque, ou du moins un usage, de prendre un nom de scène. Moi, j'ai pris celui de Molière. Je me suis inventé ce patronyme car les comédiens de campagne, lors de leur périple itinérant, sillonnant la France, s'inventaient toujours un patronyme. À la manière d'une appellation nobiliaire, renvoyant souvent à un lieu dit. Il existait à cette époque une centaine de lieux répertoriés, la Molière, à travers la France, notamment dans le Nord. Alors ce terme renvoyait aussi à une carrière de pierre dont on extrayait les meubles de moulin, la Molière, ou alors à un terrain marécageux, gras et humide, la Moulière. Il procurait ainsi une familiarité apparente pour le grand public.
Et alors, comment se passe la suite de cette aventure ?
On engage dans cette aventure tout notre capital et en plus on s'endette. Alors nous signons un bail de location d'un jeu de pompe de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés dans le quartier achalandé du Pont-Neuf le 23 septembre 1643. Et nous transformons ce lieu en salle de spectacle qui ouvrira en 1644. Oui, les salles de jeu, ancêtres du tennis et du squash, étaient spacieuses et allongées. Elles présentaient en outre un espace vide, était pourvu de loges. Bon, il suffisait d'ajouter une scène. Enfin, suffisait. Comme on n'avait pas prévu de faire les choses à moitié, on a investi dans cette salle pour rivaliser avec l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais. L'avantage de ce lieu, c'est qu'il touchait un nouveau segment de population. On s'attaquait à la rive gauche, à quelques rues du Pont-Neuf, près des bassins de population, et pas trop près de la concurrence installée sur la rive droite. On avait le nom, donc on avait le lieu, restait le contenu. À Paris, ce qui distinguait un théâtre d'un autre, c'était les nouveautés. Alors pour notre première saison, on a en ligne deux fois plus que nos concurrents. Des pièces d'auteurs qui ont disparu dans la mémoire publique, des œuvres qui correspondaient le mieux à l'histoire qu'on a voulu se raconter sur le siècle de Louis XIV. Une diversité de genres et d'écrits de ces auteurs, invisibilité par le récit ronflant du classicisme. Nous déployons une campagne publicitaire à la mesure de l'investissement. La caution de notre influenceur et non des moindres, donc Monsieur, le frère du roi, non seulement c'était chic, mais en plus, cela nous permettait d'être invités dans les plus belles réceptions et même de jouer en privé pour de coquettes sommes.
Faisons une petite pause dans cette interview pour écouter deux extraits de L'Étourdi. L'Étourdi ou les Contretemps, une comédie de Molière en 5 actes et en vers. Elle a été composée et jouée à Lyon vers 1655, pendant les tournées que l'illustre théâtre faisait en province avant de venir se fixer à Paris. Elle fut jouée dans le théâtre parisien du Petit Bourbon, en 1658, quand Molière était le directeur de la troupe de Monsieur, frère du roi Louis XIV. L'intrigue, Lélie aime une jeune esclave nommée Célie. Celle-ci est au pouvoir d'un vieillard nommé Truffaldin. Mascarille, valet de Lélie, n'imagine pas moins de 11 ruses pour libérer la jeune fille et la donner à son maître. Mais Lélie, qui est un étourdi, en fait, qui est non averti de ce qui se trame, fait échouer tous les projets de Mascarille. Cette comédie d'intrigue est superficielle, mais elle est très enlevée, rapide et gaie. Voici le début de la pièce, acte 1, scène 1 et 2, avec Lélie, Michel, et son valet Mascarille, Françoise.
Eh bien, Léandre, eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux qui pourra l'emporter, qui, dans nos soins communs pour ce jeune miracle, aux yeux de son rival, portera plus d'obstacles. Préparez vos efforts et vous défendez bien, sûr que de mon côté, je n'épargnerai rien. Ah, Mascarille !
Quoi ?
Voici bien des affaires. J'ai dans ma passion toute chose au contraire. Léandre aime Célie, et par un trait fatal, malgré mon changement, est toujours mon rival.
Léandre aime Célie.
Il l'adore, te dis-je.
Tant pis.
Eh oui, tant pis, c'est là que ce qui m'afflige. Toutefois, j'aurais tort de me désespérer. Puisque j'ai ton secours, je puis me rassurer. Je sais que ton esprit, en intrigue fertile, n'a jamais rien trouvé qui lui fût difficile, qu'on peut appeler le roi des serviteurs, et qu'en toute la terre...
Trêve de douceur. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous les sommes les chéris et les incomparables. Dans un autre temps, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups.
Ma foi, tu me fais tort avec cette invective. Mais enfin, discourons un peu de ma captive. Dis si les plus cruels et plus durs sentiments ont rien d'impénétrable à des traits si charmants. Pour moi, dans ses discours comme dans son visage, je vois pour sa naissance un noble témoignage. Et je crois que le ciel de dans un rang si bas cache son origine et ne l'en tire pas.
Vous êtes romanesque avec vos chimères. Mais que fera Pandolphe en toutes ces affaires? C'est monsieur votre père, au moins ce qu'il dit. Vous savez que sa bile assez souvent s'aigrit, qu'il peste contre vous d'une belle manière quand vos déportements lui blessent la misère. Il est avec Anselme en parole pour vous que de son Hippolyte on vous fera l'époux, s'imaginant que c'est dans le seul mariage qu'il pourra rencontrer de quoi vous faire sage. Et s'il vient savoir que, rebutant son choix d'un objet inconnu, vous recevez les lois, que de ce fol amour la fatale puissance vous soustrait au devoir de son obéissance, Dieu sait quelle tempête alors éclatera et de quel beau sermon vous régalera.
Ah, trêve, je vous prie, à votre rhétorique.
Mais vous, trêve plutôt à votre politique. Elle n'est pas fort bonne et vous devriez tâcher...
Sais-tu qu'on n'acquiert rien de bon à me fâcher ? Que chez moi, les avis ont de tristes salaires. Qu'un valet conseiller y a mal ses affaires.
Ils se mettent en courroux tous... Tout ce que j'en dis n'était rien que pour ivre et vous sonder l'esprit. D'un censeur de plaisir, ai-je fort l'encolure et Mascarille est-il ennemi de nature? Vous savez le contraire et qu'il est très certain qu'on peut me taxer que d'être trop humain. Moquez-vous des sermons d'un vieux barbon de père? Poussez votre bidet, vous dis-je, et laissez faire. Moi, j'en suis d'avis que ces penards chagrins nous viennent étourdir de leur compte badin. Et, vertueux par fausse, espère par envie ôter aux jeunes gens les plaisirs de la vie. Vous savez mon talent. Je m'offre à vous servir.
Ah, c'est par ces discours que tu me peux ravir. Au reste, mon amour, quand je l'ai fait paraître, n'a point été mal vu aux yeux qui l'ont fait naître. Mais Léandre, à l'instant, vient de me déclarer qu'à me ravir Célie, il va se préparer. C'est pourquoi dépêchons et cherche dans ta tête les moyens les plus prompts d'en faire ma conquête. Trouve ruse, détour, fourbe, invention pour frustrer un rival de ses prétentions.
Laissez-moi quelque temps rêver à cette affaire. Que pourrais-je inventer pour ce coup nécessaire?
Eh bien, le stratagème.
Hé, comme vous courez. Ma cervelle toujours marche à pas mesurés. J'ai trouvé votre fête. Il faut... Oh non, je m'abuse. Mais si vous alliez...
Oh,
c'est une faible ruse. J'en changeais une autre.
Et quelle?
Oh, elle n'irait pas bien.
Quoi?
Vous ne pourriez pas...
Quoi?
Mais vous ne pourriez rien. Parlez à Anselme.
Mais que puis-je lui dire?
Il est vrai. C'est tombé d'un mal dedans un pire. Faudrait pourtant la voir. Allez chez Truffaldin.
Que faire?
Je ne sais.
C'en est trop à la fin. Et tu me mets à bout par ces contes frivoles.
Monsieur, si vous aviez en main force pistole, nous n'aurions pas besoin maintenant de rêver à chercher les biais que nous devons trouver. Et pourrions, par un prompt achat de cette esclave, empêcher qu'un rival vous prévienne et vous brave. De ces Égyptiens-là qui la mirent ici, Truffaldin qui la garde, est en quelques soucis. Et trouvant son argent qui lui font trop attendre, je sais bien qu'il serait très ravi de la vendre. Car enfin, en vrai ladre, il a toujours vécu. Il se ferait fesser pour moins d'un quart d'écu, et l'argent est le dieu que surtout il révère. Mais le mal, c'est...
Quoi, c'est?
Et que monsieur, votre père, est un autre vilain qui ne vous laisse pas, comme vous voudriez bien, manier ses ducats. Qu'il n'ait point de ressort qui, pour votre ressource, pu faire maintenant ouvrir la moindre bourse. Mais tâchons de parler à Célie un moment pour savoir là-dessus quel est son sentiment. La fenêtre est ici.
Mais Truffaldin, pour elle, fait de nuit et de jour exacte sentinelle. Prends garde.
Dans ce coin, demeurons en repos. Oh, bonheur! La voilà qui paraît à propos.
Altitude FM.
Mon cher Jean-Baptiste, comment s'est passée votre concurrence avec l'hôtel du Marais?
Un petit coup de destin. Deux semaines après le début de notre première saison, le théâtre du Marais brûle. Notre troupe vit la meilleure période de sa vie. Alors nous engageons un danseur, histoire de rendre les pièces plus sexy avec un ballet en ouverture. Et ça marche. Hein. Par contre, le théâtre du Marais se reconstruit en bien plus beau qu'avant. Profitant de l'incendie, les comédiens ont doté leur nouvelle salle de loges flambant neuf et d'une machinerie de pointe, 4D, Sound Surround, IMAX et autres, pour devenir le théâtre à effets spéciaux à Paris. Hein. Jeu de la concurrence, l'hôtel de Bourgogne, de son côté, répond par des pièces rivales, même titre, mais contenu différent. Les spectateurs adorent, vont voir les deux pour décider de la meilleure. La rive droite redevient tendance pour ses nouveautés.
Et alors, les problèmes sont arrivés?
Les deux théâtres attirent tout le public. Alors, le public ne s'embête plus à franchir le pont neuf. À partir de la fin de 1644, plus personne ne vient voir nos pièces. Nous ne jouons presque plus, puisque la rive droite est préférée. Donc on déménage dans une nouvelle salle, encore plus chère que la précédente. C'est un mouchoir de poche, hein, la salle de jeu de pomme de la Croix-Noire, proche des quartiers chics, telle l'île Saint-Louis ou la place Royale. On y croit, on signe un bail pour 3 ans. Mais rien n'y fait. Les dettes s'accumulent et en cette fin d'année 1644... On est obligé de quitter une première fois Paris pour échapper aux créanciers en suivant monsieur, notre protecteur. C'est l'enfer, hein. Il faut gérer l'accumulation des plaintes des lingères, des marchandes de chandelles, des portiers et de tous ceux qui réclament leur dû. C'est le surendettement, quoi. La troupe a multiplié les petits crédits, les uns servant à rembourser les autres, ce que vous appelez aujourd'hui de la cavalerie, hein. La débâcle financière, les dettes s'empilent jusqu'à ce que l'ensemble s'effondre. Alors, poursuivi par les fournisseurs et les différents créanciers, mes comédiens talentueux m'abandonnent, les dramaturges en vue me délaissent, nos biens personnels sont saisis, je me porte garant pour mes collaborateurs et me vois imputer des créances qui me valent un séjour pour dette à la prison du Châtelet au début du mois de mai 1645. Mon père obtiendra ma libération par le versement d'une caution, Mais j'avais déjà été emprisonné pour impayé à la fin de l'année 1644. Heureusement, quand on est fils de bonne famille et qu'on a des relations, bon, les gens vous aident, voilà. Le père d'une comédienne nous prête de l'argent, la mère de Madeleine aussi d'ailleurs. Mon père également, comme je vous l'ai déjà dit. Il me pardonne, mais il n'oubliera jamais. Il nota soigneusement ce que lui avait coûté la faillite de l'illustre théâtre et me le rappellera à chaque dîner de famille au moment du digestif. Je ne finirai de le rembourser qu'en 1666. Donc la compagnie disparaît et on n'entendra plus jamais parler de l'illustré théâtre.
Et comment avez-vous remonté la pente ?
Ah, mais là je suis à terre. Madeleine, de son côté, trouve le moyen de sauver en partie l'affaire. En tant que formidable comédienne, elle peut compter sur son réseau et le désir des troupes rivales de l'embaucher, voilà. Charles Dufresne, acteur réputé en province et chef de la troupe du duc d'Épernon, la recrute. Madeleine accepte, mais à condition d'embarquer aussi sa famille théâtrale. Madeleine avait fondé l'illustre théâtre. Elle en sauve les principaux membres dont je fais partie.
Merci Jean-Baptiste. On en saura plus dans cet entretien que nous poursuivrons lors de notre prochaine émission. Voici maintenant un extrait du Misanthrope. Le Misanthrope écrit par Molière en 1666, qui met en scène les contradictions et les absurdités de la société du XVIIe siècle. Cette comédie satirique met en lumière les travers de l'hypocrisie sociale en mettant en scène le personnage d'Alceste, un homme profondément misanthrope. Il est intègre et franc, il déteste la fausseté et l'hypocrisie et critique ouvertement les comportements hypocrites de ses contemporains, ce qui le rend impopulaire et marginalisé. Alceste est amoureux de Célimène, une jeune femme coquette et mondaine qui incarne parfaitement l'hypocrisie sociale qu'il méprise. Philinte, ami d'Alceste, est son exact opposé. Il est tolérant, conciliant et prône la courtoisie et la politesse en société. Philinte tente de raisonner Alceste et de lui faire comprendre que ses idéaux sont utopiques, mais il se heurte souvent à son entêtement. Voici le Misanthrope, ou du moins le début, acte 1, scène 1, de Molière, dit par Michel Lagouin, Alceste, et Françoise Bénard, Philinte.
Qu'est-ce donc, avez-vous ?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, mais dites-moi quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique mes amis, enfin, je suis tout des premiers.
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce que je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte ?
Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après « Quel est cet homme ?» à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant.
Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable. Et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me prenez pas pour cela, s'il vous plaît.
Que la plaisanterie est de mauvaise grâce.
Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Je veux qu'on soit sincère. Et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parle du cœur.
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre, serment pour serment.
Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. et je n'ai rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de si divilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régales peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde, puisque vous y donnez, dans ces vices du temps. Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande.
Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
Bon, il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce qu'on d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est?
Oui.
Bah, quoi? Vous diriez et vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'émase de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun?
Sans doute.
Adolir, hélas, qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour, oreille qui ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race.
Fort bien.
Mais vous vous moquez.
Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injuste intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. J'aurai des noirs assez où je vous envisage. Et crois voir en nous deux, sous même soin nourri, ces deux frères que peint l'école des maris. Non.
Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades.
Non, tout de bon. Et quittez là, toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie partout où vous allez donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
Tant mieux, morbleu. Tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un effort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Mais tous les autres, les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes?
Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et ce ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde, et que par eux son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est, par la brigue, un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut, parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe, comme vous, sans chose tous les jours qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoi, qu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous, on ne doit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flingue est philosophe autant que votre bile.
Alceste, blessée par l'hypocrisie sociale, reproche à son ami Philinte sa complaisance mondaine. Ce misanthrope doit de plus soutenir un procès dont l'issue devrait lui être favorable, mais que la cabale peut retourner. Son ami Oronte sollicite alors son avis sur un de ses sonnets et, comme Alceste lui dénie tout talent, une querelle éclate entre les deux hommes. Alceste reproche ensuite à Célimène sa civilité envers ses rivaux. Arrivent deux petits marquis avec lesquels Célimène se moque cruellement des absents. Alceste, qui intervient, se voit lui aussi publiquement raillé. Il est alors convoqué par le tribunal au sujet de sa querelle avec Oronte. Les deux marquis s'engagent à laisser réciproquement la place. Selon le choix de Célimène, Arsinoé vient ensuite reprocher à celle-ci son train de vie. Rabrouée, elle propose alors à Alceste une preuve de la duplicité de Célimène. Éliante aime Alceste et Philinte aime Éliante. Si bien qu'Alceste, humilié par cette lettre de Célimène à Oronte, se retourne vers Éliante. Mais Célimène ni sa perfidie et jouant sur l'amour d'Alceste, retourne la situation. De nouvelles inquiétantes arrivent sur l'issue du procès. Alceste l'a en effet perdu. Il décide alors de quitter la compagnie des hommes. Et en présence d'Oronte, il force Célimène à choisir entre deux. Avec cette pièce de théâtre, Molière nous livre un incroyable pamphlet contre ceux qu'il considère la peste sociale de son époque. Les courtisans et hypocrisie gravitant à la cour. Le misanthrope de Molière est donc une critique acerbe de l'hypocrisie et des faux-semblants de l'époque. Merci Philippe, merci Françoise, merci Michel. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la vie et de l'œuvre de Molière. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour, « La raison n'est pas ce qui règle l'amour ». Elle vient du misanthrope. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations, bien d'autres, sur le site de l'Union Régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous, un mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.